Bonjour et bienvenue à la conférence téléphonique de présentation des résultats du premier trimestre 2018 de l'ISY. Je laisse à présent la parole à Monsieur Emmanuel Viellard, directeur général de l'ISY. Monsieur, c'est à vous.
Merci. Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence pour vous fournir des éléments d'explication sur le rapport d'activité que vous avez tous reçu, suite aux chiffres du premier trimestre. Le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 420 millions d'euros. Pour ceux qui ont le PowerPoint sous les yeux, vous pouvez voir que le chiffre de comparaison de l'exercice précédent du premier trimestre 2017 s'établissait à 444 millions, qui était un chiffre record. Dans la différence entre les 420 et les 444, il faut bien tenir compte d'un effet dollar, et on reviendra plusieurs fois sur le sujet parce que c'était vraiment un élément très important de la publication de ce premier trimestre, hein. De 20 millions d'euros, soit un effet de quasiment d'un peu plus de 5%. Donc, quand on regarde sur les chiffres publiés de moins 5,6, corrigés de l'effet dollar, nous aurions été quasiment au même chiffre d'affaires que sur l'exercice précédent. Ensuite, nous avons l'intégration de Thermax qui contribue très positivement au chiffre d'affaires et qui compense cet effet dollar, d'ailleurs qui aurait été encore plus significatif si le dollar avait tenu un niveau encore plus élevé. Donc c'est vraiment l'effet majeur. Donc l'intégration de Thermax qui est le deuxième effet. Nous avons le constat d'une baisse significative dans la division aéronautique, tandis que l'activité automobile se tient à un très bon niveau, dans des très bons taux de croissance. Et nous avons également une activité médicale qui est pénalisée par l'activité de Remelay. Alors, quand on regarde ensuite plus précisément dans la division aéronautique, là aussi, on retrouve un effet de change qui est encore plus significatif à l'échelle de la division, puisque ça pèse moins 7,6. Par ailleurs, la baisse d'activité est surtout sensible dans l'activité fixation Europe, qui est pénalisée par la poursuite de l'ajustement de la chaîne d'approvisionnement, son principal donneur d'ordre, pour dire pudiquement. La baisse liée au déstockage très significatif imposé par Airbus sur le programme A350. On a également un effet, mais plus marginal, le quasi-arrêt du montage des 380. On note néanmoins un certain nombre d'éléments avancés qui n'ont pas encore joué sur la période, mais qui vont être des éléments qui vont permettre de soutenir le chiffre d'affaires pour les trimestres qui viennent, en particulier du côté des États-Unis avec Boeing qui repart bien, également la distribution. Et on a également des plus petits segments comme les hélicoptères ou les business jets qui repartent doucement, mais qui repartent. Du côté des composants de structure, nous sommes toujours sur des rythmes soutenus de montée en cadence sur les nouveaux programmes. Dans les activités, que ce soit principalement concernant les moteurs libres en particulier, et également sur les applications 320 Neo, 330 Neo et 350, où là il n'y a pas de phénomène de stockage-déstockage. Au passage, je ferai part d'une situation un peu plus normalisée concernant les bords d'attaque et les OGV. Sur les aubes, là, on s'inscrit plus dans la durée, hein. Vous vous rappelez de la communication que nous avons faite au mois de février, où là, il nous faudra une bonne partie de l'année pour redresser cette ligne de produit. Donc, l'aéronautique, 236 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui se compare à un plus haut jamais constaté sur le T1 2017 de 278, avec une baisse de moins 15. Quand on passe maintenant au monde automobile, alors là, on est porté par une prise de commande assez soutenue. On a une croissance organique largement supérieure à celle des différents marchés. Ça veut dire que globalement, nous gagnons des parts de marché là, en plus, où nous souhaitons nous développer, en particulier dans la partie clipée. Et en particulier dans la partie des composants mécaniques de sécurité ainsi que sur la visserie d'application. Nous constatons de manière très positive une bonne intégration de la société Thermax qui a été acquise et consolidée depuis début novembre 2017. Nous avons des nouvelles qui sont très positives de ce côté-là, bonne coopération, des premiers éléments de synergie qui se mettent en place. On a déjà des ventes croisées constatées, donc qui ne sont pas encore au stade du chiffre d'affaires, mais il y a déjà pas mal de choses qui sont lancées et qui apportent confiance pour la suite. Nous avons des taux de prise de commande là, qui sont mentionnés dans le rapport concernant les composants mécaniques de sécurité et les solutions clipées là, qui sont tout à fait intéressants pour la suite. Ça veut dire que globalement, ces deux segments vont continuer à croître. Avec 154 millions de chiffre d'affaires sur le trimestre, bien entendu, c'est un record. On est à plus 19,4. Il aurait été encore plus significatif cet écart si le dollar, là aussi, avait pu jouer à plein avec une exposition dollar qui est bien entendu un peu plus importante que par le passé dans cette division. Donc du côté auto, on a plutôt des bonnes nouvelles. Il y a un sujet matières premières dont on reparlera tout à l'heure dans la partie perspective. Dans la partie médicale. Là nous constatons avec à peu près 50% des chiffres d'affaires en dollars un effet de change significatif qui est de moins 7%. La baisse sur le trimestre est de moins 20, ça veut dire que globalement on est à moins 13. Et je vous rappelle que là on continue à pâtir de la perte de deux produits significatifs au deuxième semestre 2017 hein, et décalage des montées en cadence des nouveaux produits. Donc là on est vraiment au creux, c'est Remélé hein, qui souffre particulièrement. Les trois sites qu'on appelle ostéosynthèse, hein, donc tout ce qui est implant principalement orienté rachis, donc c'est Néron, San Diego et puis le site de Coon Rapids. Ces trois sites-là sont dans une bonne dynamique. Du côté de LMO, on note un léger déstockage chez Stryker qui pèse un tout petit peu sur le chiffre d'affaires, mais rien d'inquiétant pour la suite. Donc certains peuvent paraître déçu, mais là il faut savoir rester patient et avoir le plein effet de la prise de commande des nouveaux produits qui vont contribuer à soutenir le chiffre d'affaires à partir du deuxième semestre. Alors, ce qui vous intéresse particulièrement, c'est les tendances et comment on voit l'année. Dans la partie aéronautique, on espère avoir une remontée du chiffre d'affaires Fasteners que nous avons jugé légère et pas suffisante pour compenser le retard qui a été pris sur le terrain. Donc on a un effet de comparaison qui est très défavorable, surtout on a un effet dollar là, qui est totalement pénalisant et qui rajoute de la peine à la situation des Fasteners Europe. Néanmoins, on prévoit quand même de remonter progressivement et de plus en plus fort au fur et à mesure qu'on va avancer dans l'année pour ressortir avec un certain nombre de sujets très intéressants pour la suite, des augmentations de parts de marché chez Boeing qui donneront leur effet sur 2019. Nous maintenons les grands projets. Forge 2020 en particulier, qui commence à rentrer dans une phase là, active. Le projet OptiBlind, qui est en cours de qualification chez quatre grands avionneurs. Il y en a deux en France et deux aux États-Unis. Les OGV, on a augmenté nos parts de marché et Safran a souhaité que l'on augmente nos capacités, ce qu'on fait volontiers. C'est à l'usine de Parthenay 3 qui sera lancée prochainement. Et puis nous avons également lancé, à la demande de Safran, la production finale, donc la finition usinage, des bords d'attaque aux États-Unis. Donc ce sera dans notre unité de Chihuahua au Mexique. Donc ça va nous permettre de fournir le LIP 1B pour les activités de montage des moteurs qui sont situées aux États-Unis. Donc vous voyez qu'on reste confiant dans la durée, bien entendu, sur le moyen terme. L'industrie aéronautique n'est absolument pas morte et bien entendu c'est un moment un petit peu compliqué à passer, mais on est prêt à ressortir encore plus fort de cette situation. Du côté de l'auto, ben là, vous voyez, c'est tout le propre du groupe que d'avoir des activités qui sont contracycliques et qui se compensent. Donc nous avons un fort niveau de la demande avec un profil d'année qui, lui, sera stable en 2018, avec sur le sujet matières premières, nous sommes en fin de négociation avec les clients et on espère que tout soit décanté pour la fin du mois. Ça veut dire en global qu'on aura réussi à limiter l'effet matières premières sur le compte de résultat. Néanmoins, on aura quand même un effet sur les quelques mois du début d'exercice. Je ne reviens pas sur les très bons débuts de Thermax, mais c'est tout à fait encourageant, des synergies qui sont tout à fait perceptibles. Et puis, on peut également citer le développement des plateformes US avec la nouvelle usine de Monterrey. Alors, je sais bien que le Mexique n'est pas tout à fait aux États-Unis, mais c'est pour le marché US. Et également, le marché chinois qui connaît un peu un trou d'air en ce moment, continue son développement, notamment sur la partie des composants mécaniques de sécurité. Sur l'usine médicale, le développement des nouveaux produits est en cours. On devrait revenir à une activité plus normale sur la fin, je parle de Rémélé, hein, sur la fin de l'exercice 2018. Donc par rapport à l'exercice 2017, nous avons un profil exactement inverse en 2018, avec une reprise sur la fin d'année, mais là on a encore, comme dans la partie aéronautique, un effet de décalage qui fait qu'on aura du mal à compenser la baisse de ce début d'année dans la partie médicale pour atterrir à un niveau proche de l'exercice précédent. Alors, globalement, aujourd'hui, il serait compliqué de tabler sur un redressement très significatif du dollar, je pense que personne n'y croit. Deuxièmement, compte tenu de l'amplitude de la baisse de notre principal donneur d'ordre dans la partie aéronautique et du côté de Toulouse au premier semestre, ces aimants-là rendra difficile voilà, l'amélioration en valeur et en relatif des indicateurs de gestion, en particulier de l'EBIT. Et nous confirmons un objectif de free cash flow largement positif, donc qui permet de contrebalancer cette correction de guidance sur l'EBITDA. Voilà, écoutez, c'était pour ma présentation de manière générale. Donc maintenant, je vais laisser la place à vos questions.
Mesdames et messieurs, si vous souhaitez poser une question, vous pouvez composer le 01 sur votre clavier téléphonique. Nous avons une question de Geoffroy Perriera de Gilbert Dupont. Monsieur, c'est à vous.
J'aurais plusieurs questions pour ma part. D'abord sur les guidances, est-ce qu'il faut comprendre que par contre sur le chiffre d'affaires, vous êtes confiant pour rester en croissance à périmètre et taux de change constant sur l'année, malgré l'aéronautique? Ensuite, sur la révision de la guidance d'EBIT, j'aurais voulu comprendre ce qui avait changé en fait depuis la publication de vos résultats annuels. Enfin, qu'est-ce qui vous rend plus pessimiste aujourd'hui qu'il y a 2 mois? Est-ce que c'est lié à aux discussions que vous avez avec Airbus, ou est-ce qu'il y a autre chose? Et puis toujours sur cette guidance, est-ce que vous pourriez nous aider à quantifier un petit peu l'atterrissage? Enfin, est-ce que la baisse de l'EBIT devrait être low single digit ou plutôt high single digit? Et puis dernier point, est-ce que cette baisse de marge que vous attendez en 2018, elle est purement conjoncturelle? Et donc en 2019, avec le retour à la normale de la partie Fasteners Europe, on peut tabler sur un retour à des niveaux de marge plus en phase avec ce que vous aviez l'année dernière, ou est-ce qu'il y a des éléments un peu plus structurels au-delà de l'effet dollar, bien sûr?
Très bien, merci Geoffroy. Alors, tout d'abord concernant le chiffre d'affaires, oui, je pense que vous comprenez correctement. Nous aurons, selon toute vraisemblance, un chiffre d'affaires en progression certes assez faible, mais en progression néanmoins. On attend à partir du deuxième semestre un chiffre d'affaires au-dessus de N-1. Que ce soit pour le T3 ou pour le T4. Donc en global, on rattrape l'intégralité et ce, avec un dollar à 1,23, donc constant par rapport au niveau actuel. Ensuite, sur les indicateurs de gestion. Donc notre guidance, je vous la rappelle, hein, c'était une progression en valeur. Donc c'est-à-dire qu'on devait faire un résultat d'EBIT supérieur en valeur à celui de l'exercice précédent et à deux chiffres. Donc aujourd'hui, nous pensons, compte tenu des hypothèses, alors les hypothèses ont été révisées pourquoi? Tout d'abord, là on est au mois d'avril, on a une visibilité sur les carnets du premier semestre et on voit qu'aujourd'hui on n'a rien comme indice précurseur, notamment du côté de Airbus, qui nous indique une remontée brutale des carnets. Donc là où on pouvait attendre qu'on ait une fin de deuxième trimestre déjà un peu plus dynamique, aujourd'hui on est quand même un tout petit peu en attente et on ne voit rien venir. Et par ailleurs, l'amplitude de la baisse a été quand même surprenante. Donc ces deux éléments-là font qu'on se doit de réviser. Ensuite, je préciserai quand même une chose, c'est qu'en termes d'EBITDA, nous serons dans des niveaux proches de l'exercice précédent. Et compte tenu de l'augmentation des amortissements et des effets de provision, mais beaucoup plus minimes, par contre, ça pèse sur l'EBIT. Donc ça veut dire qu'on va rater la marge à deux chiffres de quelques dizaines de points, quoi.
D'accord.
Voilà, ça vous aide un peu plus à quantifier les choses. Voilà. Alors ensuite, on est là clairement dans des ajustements conjoncturels. On a eu un effet de sur-résultat à un moment donné, et principalement sensible sur le premier trimestre 2017. Maintenant, vous voyez qu'on progresse dans beaucoup de domaines. On progresse dans l'activité automobile, on continue à augmenter en plus le volume d'activité avec des acquisitions bien ciblées, avec des niveaux de marge qui sont tout à fait intéressants. On continue à progresser dans l'activité des composants de structure, là où on a de la marge, on investit, alors on crée véritablement un nouveau business dans la partie composants. Ce que je vous raconte là sur les bords d'attaque, sur les OGV, sur les aubes, etc., c'est comme si on achetait une société à l'extérieur. Donc on investit 1 € pour faire 1 € de chiffre d'affaires. Donc c'est lourd en termes d'investissement, mais par contre ce sont des activités qui sont tout à fait porteuses de marge pour la suite. Donc là on doit avoir une montée en puissance de ces nouveaux produits pour le futur qui doit commencer à contribuer. Et puis enfin, le médical va retrouver une activité plus conforme à son statut. On va apporter du 109 dans le dispositif. On a pris des mesures qui devaient être prises. Et donc, dans la durée, le médical va contribuer. Donc, nous restons, bien entendu, focalisés sur le moyen terme. Comme on est une entreprise avec une stratégie long terme, ça tombe plutôt bien.
Ok, merci.
Nous avons une autre question. Oui, de M. Christophe Ménard de Kepler Chevreux. Monsieur, c'est à vous.
Oui, bonsoir. J'avais quelques questions. La première, c'est sur votre objectif de cash sur l'année, pour prendre les choses positives. Il y a eu un changement de formulation, puisque vous parliez d'un cash positif avant. Là, il est largement positif. Est-ce qu'on peut essayer de le quantifier? Est-ce que c'est ça peut être équivalent à ce que vous aviez en 2017 hors effet Forex? Donc déjà à ce niveau-là. Et l'autre question, le pendant de ça, c'est cet objectif de free cash. On entend bien qu'il est à CAPEX non révisé à la baisse, c'est-à-dire même CAPEX, je présume. De toute façon, ça doit être le cas puisque ça peut pas s'annuler aussi rapidement. La deuxième question, c'était sur les gains de part de marché chez, vous avez mentionné les gains de part de marché chez Boeing avec un effet en 2019. Est-ce que ce sont des nouvelles choses par rapport à votre présentation de résultats? Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus? La troisième question, c'est sur l'auto. Alors, vous avez une bonne croissance. À un moment où les volumes auto ont l'air de freiner un peu, ou en tout cas il y a des messages qui sont un peu différents de la part de certains fournisseurs. En quoi êtes-vous confiant sur la vous avez dit être confiant sur la continuité de cette progression des ventes, mais est-ce que c'est lié à votre effet mix et est-ce que pour vous c'est quelque chose de très résilient la croissance de votre activité auto? Et la toute dernière question, c'est plutôt sur une vision moyen terme. Quand on regarde vos présentations, vous montrez en fait des objets. Je ne sais pas si c'est des objectifs de vente, mais en tout cas, vous avez en lissant un peu, on peut voir qu'en 2020, vous avez des ventes qui peuvent tomber dans des zones de 1,9 à 2 milliards. Est-ce que, à la vue de la révision d'aujourd'hui, c'est des objectifs qui peuvent être décalés ou vous attendez une forte reprise en 2019 et 2020? Ce qui fait qu'on a vraiment un effet de phasage malheureux, mais un effet de phasage sur 2018.
Alors, Christophe, merci pour vos questions. Le premier concernant le free cash. Alors, effectivement, il faut être précautionneux sur le free cash, puisqu'on a un fort effet de change, notamment sur toute la trésorerie dollar. Aujourd'hui, on accumule la trésorerie dollar parce qu'on investit déjà en dollars et puis ensuite, on estime que le dollar va revenir à un cours un peu plus favorable pour être changé en euros. Donc, on a cette trésorerie dollar. Lorsque le dollar baisse, lorsqu'on l'a converti en euros, ça a une influence directe sur le free cash flow qui peut être significatif. Donc, on va mettre de côté cette hypothèse-là. Concernant les capex, bien entendu, on ne va pas couper bêtement les capex sur des sujets structurants d'avenir. Donc tous les projets, Forgin 20, Parthenay 3, les usines polonaises et tout ça, là, tout continue exactement de la même façon. On n'a rien remis en cours. Donc on a un budget de capex qui est encore significatif pour l'exercice en cours. Notre objectif, compte tenu de ces deux hypothèses, on est largement positif parce que on sent qu'on a une marge de manœuvre sur cet indicateur-là. Donc, ce qui veut dire que on pourrait approcher les niveaux de l'exercice précédent.
Hors effet FX ou avec l'effet FX?
Hors effet FX.
D'accord.
Je suis prudent sur le sujet, qui était déjà significatif l'an dernier. Hein, donc. Voilà, là, il y a peut-être 5 à 6 centimes de plus à prendre en compte. Sur 200 millions de trésorerie. Boeing. Alors, Boeing, oui, on a pris des parts de marché sur des nouveaux produits. Il y a un produit très intéressant et un écrou étanche qui est fabriqué à Villefranche-de-Rouergue. C'est un produit normé Boeing qu'on a mis 3 ans à développer. Et ça y est, là, on a reçu les commandes. Donc, on a monté l'atelier dans la nouvelle usine les premières livraisons vont commencer à produire du chiffre d'affaires pour la fin de l'année. Ensuite, il y a une ligne de produits pour le Canada et qui sont un produit avec des sleeves, donc avec un insert, hein, et un autre produit qui est pour Saint-Renaud-Mône, qu'on appelle Sleeveless, qui est un produit sur un développement très spécifique qu'on appelle le Zebra, que vous avez peut-être vu au Salon du Bourget. Boeing, oui, c'est très intéressant. Donc on a terminé toute la négo avec ce client. Et en échange de quoi, on a allongé les délais de paiement. Et en face, on va opérer les cessions de créance des consolidants aux États-Unis pour nous permettre de compenser. Donc il n'y aura pas d'effet sur le bilan de ce qu'on a concédé à Boeing. On est passé à 90 jours. Donc voilà pour le sujet Boeing. Et du côté de Boeing, on a des indicateurs qui nous semblent partir dans la bonne direction, de même que la situation aux États-Unis. La croissance auto, vous avez raison de constater qu'on a un contexte où le marché est à peu près ralenti dans beaucoup de pays, en particulier en Chine, en particulier en Angleterre, aux États-Unis également. Du côté de Thermax, on a un niveau de prise de commande de nouveaux produits qui est très conséquent parce que il y a une rotation des produits qui est assez rapide. Il y a pas mal de produits embarqués sur des plateformes qui devraient être remplacées. Donc là, c'est une nécessité. Mais du côté des prises de commande concernant notamment la partie SMC, là, c'est volontaire. Donc on a investi pour pouvoir servir ces nouveaux marchés. On a investi en Chine notamment pour les équipementiers locaux. Donc ça, c'est une vraie volonté et on pense que la dynamique de l'auto sera plus résiliente que le marché, quoi qu'il arrive. Maintenant, s'il y a une chute brutale du marché automobile, bon, ce qui me surprendrait quand même, ce serait un peu différent. Mais nos hypothèses, des perspectives assez stables sur l'ensemble de l'année dans la division automobile nous conduisent à être positifs et optimistes pour ce secteur-là. Quant à nos prévisions moyen terme de 2 milliards, comme je le dis, on reste bien entendu axé sur le long terme, que effectivement, de faire 2 milliards de chiffre d'affaires en 2020 serait une bonne chose. C'est un objectif sur lequel on n'a pas communiqué officiellement et on ne souhaite pas communiquer officiellement là-dessus. Néanmoins, compte tenu de l'ensemble des potentiels de développement qu'on a sur nos différents marchés, on pense que c'est faisable. Et ce n'est pas parce qu'on a eu un trimestre d'ajustement, même un tout petit peu difficile dans la partie aéronautique, ça remet en cause nos ambitions.
Merci beaucoup.
Nous n'avons pas d'autres questions pour le moment. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que si vous souhaitez poser une question, vous pouvez composer le 01 sur votre clavier téléphonique. Nous avons une question de Laurent Gélébard de Exane. Monsieur, c'est à vous.
Oui, bonsoir Manuel. Laurent Gélébard de Exane. J'avais une question sur Airbus. Quels signaux il vous laisse entendre sur la remontée du backlog à la fois sur la deuxième partie de l'année, mais surtout sur 2019? Parce que leur ajustement, ça va commencer à faire assez longtemps qu'ils l'ont mis en place. Donc, est-ce qu'il vous laisse entendre qu'à un moment ou un autre, ça devrait repartir de façon assez matérielle ou pas?
Bah, écoutez, quand vous regardez les dernières communications d'Airbus en termes de cadence, l'année prochaine, ils vont quand même assembler 725 avions monocouloirs. Ils en auront assemblé 593 en 2017, 650 en 2018. Donc ça fait quand même un bel écart. Il va quand même falloir qu'ils les assemblent, ces avions-là. Par ailleurs, la 350, ils prévoient d'en assembler en 2019 116. Par contre, en 2018, c'est à peu près le même nombre que l'année précédente. 2017. Donc, je pense que le gros tassement de la demande vient de là. Et on le voit à chaque fois dans la partie aéronautique, hein, par expérience, qu'on a une stabilisation des cadences. Sur nos produits, on a un ajustement à la baisse. Ça, c'est du fait des cambans qui font que En fait, ils vont attendre jusqu'au dernier moment, au moment où ils vont se retrouver un peu court, pour repasser les commandes, et ils vont les repasser dans l'urgence. Donc, tout ça, ça a été discuté avec eux. Bien entendu, ces discussions sont totalement confidentielles, je ne vais pas vous en dire davantage. Mais voilà, on travaille avec Airbus pour justement essayer de détecter tous les signaux faibles pour anticiper la reprise le plus rapidement possible. Alors cette reprise, elle peut arriver plus rapidement qu'on le pense. Aujourd'hui, nous, on est bien obligé de partir sur certaines hypothèses. Donc notre hypothèse à ce stade, c'est de dire qu'on repartira franchement avec Airbus seulement au T4. Alors c'est une hypothèse, hein. Rien aujourd'hui me permet de dire que cette hypothèse-là sera celle qui sera la plus vraisemblable. Bon, c'est basé sur un certain nombre d'éléments et de notre connaissance de marché. Après, quand on regarde du côté de Boeing, on va passer à cadence 57 sur 2019. Aujourd'hui, on est sur une cadence 47. Donc, là, ça fait 10 avions de plus par mois. Et là aussi, ça va créer un besoin. Et quant au 787, lui, il est stable. Et le 777, lui, il a vraiment baissé. Voilà. Donc, du côté de Boeing, c'est principalement le 737 qui va créer l'appel d'air. Et on pense qu'aujourd'hui, on devrait en bénéficier pleinement.
Très bien, merci.
Nous n'avons d'autres questions. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que si vous souhaitez poser une question, vous pouvez composer le 01 sur votre clavier téléphonique. Nous avons de nouvelles questions de Geoffroy Pereira. Monsieur, c'est à vous.
Oui, excusez-moi, j'ai juste une toute petite question, une précision sur quand vous mentionnez dans l'automobile un profil d'année stable en 2018, qu'est-ce que vous entendez par là exactement? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet de base particulier, enfin il n'y a pas de saisonnalité à attendre cette année par rapport à l'année dernière, c'est bien ça?
Oui, tout à fait. On attend un chiffre d'affaires assez équilibré sur l'ensemble de l'exercice, avec en valeur absolue, assez proche. Bon, bien entendu, il y a des effets un peu jour ouvré sur le T3, hein, mais voilà, c'est assez proche et en progression de manière assez constante sur l'ensemble de la période par rapport à l'exercice précédent, avec l'effet Thermax inclus.
Ok, c'est clair. Merci.
Nous n'avons pas d'autres questions.
Très bien, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, vous êtes sûr?
Nous n'avons pas d'autres questions.
Bien, bah écoutez, je remercie tout le monde de son attention. Nous donnons rendez-vous pour la fin juillet sur la publication du S1. Et en tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre fidélité et pour votre confiance. Et je suis bien entendu à votre disposition si vous avez d'autres questions qui vous venaient à l'esprit à l'issue de cette conférence. Et je vous rappelle que la présentation analyste aura lieu au siège le 26 juillet. Voilà. Merci
Mesdames
à tous, au revoir.
Mesdames et messieurs, la conférence est maintenant terminée. Merci à tous de votre participation. Vous pouvez à présent vous déconnecter.